Chapitre 3. Socrate. La philosophie ramenée tout entière à la morale, et la morale considérée comme le but de toute activité intellectuelle. La philosophie de Socrate. Nous ne savons rien de Socrate, si ce n'est qu'il est né à Athènes, qu'il a beaucoup discuté dans les rues d'Athènes avec tout le monde, et qu'il a souffert, et qu'il est mort sous les 30 tyrans. De ses idées, nous ne savons rien, parce qu'il n'a rien écrit, et parce que ses disciples ont été beaucoup trop intelligents. Par suite de quoi, on ne peut toujours savoir si ce qu'ils ont dit comme ayant été pensé par lui, l'a été par lui ou par eux. Ce qui semble certain, c'est que ni Aristophane, ni les juges du procès de Socrate, ne se sont complètement trompés en le prenant pour un sophiste, car il procède d'eux. Il procède d'eux par réaction, il est vrai, car évidemment leur scepticisme universel l'a effrayé. Mais il procède très bien d'eux directement aussi, car comme eux, il se défie extrêmement des anciens vastes systèmes philosophiques, et à ces hommes qui prétendaient tout savoir, il oppose son mot très probablement authentique. Je sais que je ne sais rien. Car comme les sophistes, il veut ramener la philosophie du ciel sur la terre, c'est-à-dire de la métaphysique à l'unique étude de l'homme. Car comme les sophistes, il restreint le champ et le délimite avec une sorte de modestie rigoureuse et impérieuse qui ne laisse pas d'être méprisante à l'égard des audacieux. Car enfin, comme les sophistes, mais en ceci très analogue à bien des philosophes antérieurs aux sophistes, il n'a évidemment qu'un respect très modéré et très mêlé à l'égard de la religion de ses compatriotes. D'après ce que nous savons de Socrate par Xénophon, le moins imaginatif sans doute de ses disciples, Socrate, comme les sophistes, réduisait la philosophie à l'étude de l'homme. Mais sa grande et incomparable originalité consistait en ce que les sophistes voulaient que l'homme s'étudiât pour être heureux, tandis que Socrate voulait qu'il s'étudiât pour être moral, pour être honnête, pour être juste, sans se soucier du bonheur. Tout, pour Socrate, devait converger vers la morale et concourir à la morale et être subordonné à la morale comme à son but, comme à sa dernière fin. Il s'appliquait sans relâche, dit Xénophon, à examiner et déterminer ce que c'est que le bien et le mal, le juste et l'injuste, la sagesse et la folie, le courage et la lâcheté. Il s'appliquait infiniment, dit Aristote, et en cela il était vrai professeur de rhétorique, autant que bon professeur de morale, à bien définir, à bien préciser le sens des mots, pour qu'on ne se payât point de termes vagues qui sont des illusions de pensée, et pour que l'on disciplinât rigoureusement son esprit de manière à en faire un preneur de vrai. Sa manière. Il avait des procédés de dialectique ou d'art de conférer, comme dit Montaigne, plus ou moins heureux, qu'il avait très probablement emprunté aux sophistes qui contribuèrent à le faire passer pour l'un d'entre eux et qui eurent après lui, et longtemps après lui, une grande vogue. Il accouchait les esprits, comme il disait. C'est-à-dire, il croyait ou affectait de croire que les vérités sont à l'état latent dans tous les esprits et qu'il ne s'agissait, patiemment, habilement, par des investigations adroites, que de les en faire sortir. D'autre part, il interrogeait d'une manière captieuse, de manière à mettre l'interlocuteur en contradiction avec lui-même et à lui faire avouer qu'il avait dit ce qu'il n'avait pas cru dire, accordé ce qu'il n'avait pas cru accorder, et il triomphait malicieusement de ses confusions. Bref, il semble avoir été un Franklin spirituel et taquin, et avoir enseigné la vraie sagesse en se moquant de tout le monde. Les peuples n'aiment jamais qu'on se moque d'eux, et nul doute que le souvenir de ses railleries n'ait été pour beaucoup dans le jugement inique qui le frappa et que, du reste, jusqu'au dernier moment, il semble avoir provoqué. Son influence. Son influence fut infinie. C'est à partir de lui que la morale devint comme l'objet même, le dernier et suprême objet de toute philosophie, devint la raison de la philosophie et, comme a dit Nietzsche, la Circé des philosophes, c'est-à-dire celle qui les enchante, qui leur dicte à l'avance ou qui modifie d'avance leur système en les effrayant sur ce que leur système pourrait avoir d'irrévérencieux à son égard ou de dangereux par rapport à elle. De Socrate à Kant et au-delà, la morale a été la Circé des philosophes et la morale est comme la fille spirituelle de Socrate. D'autre part, son influence a été terrible pour la religion antique en inclinant tous les esprits vers cette idée que la morale est le seul digne objet de la connaissance et que les religions antiques, étant immorales ou d'une moralité très douteuse, doivent être abandonnées et méprisées des honnêtes gens. Le christianisme a combattu le paganisme avec les arguments mêmes des disciples de Socrate, avec des arguments socratiques. Philosophies et religions modernes sont toutes pénétrées de socratisme. Quand nous avons dit que les sophistes sont la date la plus importante de l'histoire de la philosophie antique, c'était parce qu'ils ont enseigné à Socrate de chercher une philosophie qui fût humaine et préoccupée uniquement du bonheur de l'homme, et cela devait amener à un grand esprit et, à la suite, de très grands esprits encore à diriger toute la philosophie et même toute la science humaine vers la recherche du bien, le bien étant considéré comme la condition du bonheur.